Bon, bonjour à tous. Je remercie Clément de m'avoir invité à faire ce séminaire après son cours. Et je le remercie aussi pour toute l'introduction qu'il a faite sur les nanoparticules. Donc, on va pouvoir gagner un petit peu de temps. Donc, je vais vous parler de nanoparticules et en particulier de nanoparticules organométalliques. Ce dont je vais vous parler, c'est qu'est-ce qu'une approche organométallique pour faire des nanoparticules, pourquoi faire ça et à quoi ça sert, ce que la chimie organométallique peut apporter au domaine qu'on vient de voir. Dans un deuxième temps, je prendrai deux cas emblématiques et je m'intéresserai à la croissance de nanoobjets de platine. On a déjà vu dans la conférence de Clément, dans le cours de Clément, des nano-objets de platine. Et là, je vous montrerai comment on va essayer de contrôler la croissance en séparant le côté cinétique de la croissance du côté thermodynamique. Et je définirai ce que j'entends par là. Dans le cas du fer, on va parler de croissance thermodynamique et on va regarder les propriétés de ces objets. Et ce qui va changer avec la taille. Et puis, dans ce qui restera comme temps avant que je parte prendre l'avion, il y aura des nano-objets complexes. Donc, commençons. Je ne vais pas refaire l'introduction, mais quand même, des nanoparticules. On voit les nanoparticules comme des objets parfaits. Ça, c'est un cube octaèdre. Hein, il y a une marche. Ça, c'est un cube octaèdre de platine. Et donc, dans ce cube octaèdre, on va avoir des faces qui sont non compactes, où les atomes seront dans des structures qui, vues de dessus, sont carrées, et là, des faces compactes, où un atome de surface est entouré de six voisins et a neuf voisins en entier. Ces faces vont avoir des propriétés chimiques différentes. En catalyse, et ça, Clément en a déjà parlé également, on va pouvoir avoir une sélectivité de réaction catalytique en fonction de la nature des faces exposées. Donc, ça pourra devenir intéressant de maîtriser le type de face qui va être exposée. La réalité est souvent différente, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un petit cristal parfait, on a un petit cristal qui est imparfait. Imparfait veut dire qu'il y a des faces qui ne sont pas complètes, qu'il y a des atomes qui se baladent au milieu d'une face, qu'il y a plein de défauts. Et ces défauts vont être des atomes qui seront frustrés électroniquement et qui donc vont avoir ces fameux niveaux d'énergie localisés dont a parlé Clément tout à l'heure et qui vont avoir des réactivités un petit peu différentes. Ça, c'est pour le platine. Pour la structure cubique à face centrée, qui est probablement la plus simple. Si on passe à l'autre structure compacte, qui est hexagonale compacte, on voit déjà que les objets parfaits vont être d'une nature beaucoup plus complexe. Par exemple, celui-ci, c'est un décaèdre de Marx qui fait apparaître des sites un petit peu bizarres à sa surface. Ça, c'est simplement quelque chose de statistique, une sphère statistique, mais où il va y avoir des sites un peu particuliers. Et puis, il y a au moins des dizaines de structures que peuvent adopter les nanoparticules. Donc, la vision qu'on a d'un superbe empilement est une vision, en général, pas très vraie. Et puis, il y a pire, il y a la surface. Sur la surface, on va pouvoir avoir des tas de réactions et des tas de molécules qui vont se fixer. Alors, il y aura des petits atomes, il y a des hydrures, il y a des oxydes, des hydroxos, on peut mettre des petites molécules comme l'oxyde de carbone, et il y a des grandes molécules, en général des tensioactifs, qui vont séparer les particules entre elles. Tout ça fait une chimie de surface très riche et qui va modifier en partie qui va modifier la chimie des nanoparticules et qui va modifier aussi, pour partie, la physique de ces nanoparticules. Alors, je reprends ça juste deux diapos d'introduction. Ça, j'aime bien montrer ça. Ça, c'est une expérience de pensée d'Oswald de 1927 qui s'est dit que si on a un volume de 1 cm cube, on a un certain nombre d'atomes de surface, 33%, mais quand on va aller vers un des cubes de 2,5 nanomètres de côté, là on a déjà 60% d'atomes qui sont en surface. Si on descend à 1 nanomètre, on va atteindre 80-90% d'atomes en surface. C'est-à-dire que quand on parle de la chimie qu'on va pouvoir faire sur des nanoparticules, c'est de la chimie de surface. Tous les atomes sont disponibles pour la surface. La deuxième chose, c'est que le potentiel d'oxydation va varier avec la taille. On a vu, par exemple, tout à l'heure, dans le cours de Clément, que l'or devenait catalytique à petite taille. Maintenant, une des explications les plus probables, c'est quand même que le potentiel d'oxydation de l'or varie quand on arrive à des toutes petites tailles dues au problème d'énergie interfaciale. Ceci étant dit, donc, les nanoparticules, ce sont des objets intermédiaires entre les molécules et les solides. Il y a des niveaux d'énergie localisés. Nous nous intéressons aux nanoparticules parce qu'il y a des propriétés nouvelles et parce qu'il y a déjà des applications dans le domaine du photovoltaïque, les dispositifs magnétiques, en nanoélectronique et microélectronique. Bien sûr, les nanoparticules ont été utilisées depuis très longtemps en catalyse hétérogène. Et enfin, on peut contribuer à ce domaine en faisant des objets bien définis pour avoir une bonne compréhension de ce qui se passe, par exemple en chimie de surface. Si on veut étudier précisément et si on veut comprendre la chimie et la physique de ces nanoparticules, il faut contrôler l'état de surface et il faut préparer des objets identiques. Donc, mon exposé va être à ce sujet. Alors, qu'est-ce que c'est que la synthèse? Si on reprend un petit peu le modèle de la mer qui a été présenté également, donc, ici, on a un précurseur. C'est un précurseur organométallique. Pourquoi? Parce qu'il y a un atome métallique et là, il y a deux molécules organiques. Ça représente le ruthénium cyclooctadienne, cyclooctatrienne. Ce composé, il faut retenir la formule, ce composé se décompose très facilement sous hydrogène. Sous hydrogène, le ruthénium, qui est un métal catalytique, va hydrogéner ses doubles liaisons pour faire un alcane, qui n'a pas de double liaison, le cyclooctane, et celui-là ne pourra plus interagir avec les métaux. On a donc une façon propre, en solution, de produire des atomes. Ces atomes vont se condenser, ça c'est l'étape de nucléation. Cette étape de nucléation peut difficilement être contrôlée, elle n'est pas contrôlée par la chimie, elle est contrôlée par la physico-chimie, par la température, par la pression, par la concentration, etc. Et dans une deuxième étape, par la chimie, on va essayer de contrôler la croissance. Pour l'instant, si on fait cette réaction dans un polymère, on va bloquer quelque part par ici la nucléation et on va obtenir des tout petits objets qui font entre 1 et 2 nanomètres et ce sont des particules de ruthénium qui sont déjà cristallisées sous forme hexagonale compacte à cette petite taille. Donc on revoit ces particules, elles font environ 1,2 nanomètres et on va utiliser deux méthodes essentielles pour la caractérisation en petite taille. Premièrement, la microscopie électronique à transmission et la microscopie électronique à haute résolution. On verra des plus jolis clichés. Ça date d'il y a une bonne dizaine d'années. Ça a beaucoup progressé. Et la diffusion des rayons X aux grands angles parce qu'on est sous la limite de la diffraction. Donc, on ne peut pas faire de diffraction des rayons X. On va faire de la diffusion des rayons X. On va obtenir un modèle. Et de ce modèle, on va reconstruire une structure de la particule. Là, on a vu la croissance dans un polymère, mais on peut utiliser des molécules organiques. Ces molécules organiques, comme par exemple ces carbènes N-hétérocycliques. Pour ceux qui ne sont pas des chimistes organiciens, peut-être ces choses sont un peu exotiques, mais c'est un atome de carbone qui n'a que deux voisins et qui a donc deux électrons qui sont libres, sous forme de paires libres, et qui peuvent se coordonner à des métaux. Ces carbènes adhèrent très bien sur les métaux et permettent de faire des nanoparticules. Ce qu'on peut voir ici, c'est un modèle. Ce n'est pas un calcul quantique. Les carbènes sont calculés au niveau quantique, DFT, mais le reste est un modèle qui montre qu'avec très peu de molécules, 8 molécules de carbène, on va stabiliser un peu plus de 200 atomes de ruthénium. On peut donc, par la chimie de coordination, pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette représentation, c'est un modèle qui est space filling, remplissage d'espace, dans lequel on voit, par exemple ici, ça c'est un cycle aromatique, les 6 là. Là, c'est 2 carbones avec des hydrogènes, donc c'est le carbène vu d'au-dessus. Et tout ce qui est en noir, c'est du carbone. Et dessous, il y a ce carbone-là qu'on ne peut pas voir et qui se coordonne au métal. On a donc simplement ces molécules qui peuvent tout à fait stabiliser ces nanoparticules. Non, c'était pour donner... Là, on a un atome de ruthénium stabilisé par 2 grosses molécules. Et là, on en a 200 qui sont stabilisés par 8. Et c'est pour donner simplement une image par rapport à la chimie de coordination. Mais bon, on ne va pas parler de chimie organométallique, je pense. S'il y a des questions, hein, je peux m'interrompre à tout moment. Donc, juste pour dire qu'une fois qu'on a mis ces molécules organiques autour, ces ligands, on va avoir des nanoparticules qui vont se comporter en solution comme des très grosses molécules organométalliques. Et par exemple, si on met ces 10 phosphites qui sont des dérivés de sucre et qu'on met ça à la surface du ruthénium, on va faire de la catalyse en solution et on va pouvoir, par exemple, hydrogéner des noyaux aromatiques dans des conditions très douces, température ambiante, et avec une faible pression d'hydrogène. Ce qu'on recherche là, c'est une nouvelle réaction qui pourrait faire directement 2 centres asymétriques sur le noyau aromatique. Cette réaction n'est pas connue, donc ça serait très intéressant, mais comme vous voyez, l'énantiosélectivité, c'est-à-dire le rapport des 2 isomères optiques, reste très voisin de 0. Ce qui veut dire que bon, il n'y a pas d'énantiosélectivité. Alors, la première chose, c'était ça, la connaissance de la surface. La deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'on peut apporter au système ? Toute la chimie nano s'est développée de manière exponentielle ou même multi-exponentielle dans les dernières années. Il y a énormément de publications. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a mis au point des recettes qu'on maîtrise plus ou moins, où on chauffe à 250 degrés, 300 degrés, on mélange et plaf. On s'est intéressé au phosphure de cadmium parce que c'est une alternative au sélénure de cadmium et que c'est un émetteur dans l'infrarouge. Donc c'est quelque chose qui peut être intéressant, même s'il y a du cadmium, pour des applications en biologie. Et ce qu'on a vu, c'est la chose suivante. On chauffe à 200 degrés simplement pour dissoudre les précurseurs. Si on fait un tout petit peu de chimie de coordination, qu'on prend l'acétate de cadmium et qu'on le fait réagir avec une amine, on fait un complexe, acétate de cadmium-amine, et ça, on le fait réagir à 30 degrés avec une phosphine, et on a le phosphure de cadmium. Pareil, si on veut faire quelque chose qui est cœur-coquille, on va rajouter une couche de sulfure de zinc sur le phosphure de cadmium, toujours à 30 degrés, et on a, en fonction de la taille des particules obtenues, des émetteurs dans le visible et vers l'infrarouge, avec des rendements quantiques qui sont de l'ordre de 50%. On peut donc, simplement en regardant exactement quelle est la chimie en solution qui se produit, apporter des éléments constitutifs. Et enfin, le dernier élément, c'est la microélectronique. On peut dès aujourd'hui utiliser la chimie en solution avec les nanoparticules pour la microélectronique. Ce qui se développe à l'heure actuelle en microélectronique, c'est des architectures 3D. C'est-à-dire qu'au lieu de faire les puces directement sur du silicium, on va essayer de faire, pour concentrer le maximum de fonctions sur le minimum de volume, on va essayer de mettre des fonctions à l'intérieur du silicium. Donc on creuse ces trucs-là, ça s'appelle des via, ou des... Ça, c'est une tranchée profonde. Un via, c'est quand c'est traversant. Et là, on voit que cette tranchée a fait quelques microns sur quelques centaines de microns. Quand on utilise les procédés de la microélectronique classique, il est impossible de faire rentrer du métal jusqu'au fond de la tranchée. Par contre, quand on utilise de la chimie en solution, ici, on a fait des nanoparticules de cuivre. Ce qu'on veut faire là-dedans, c'est simplement avoir un contact, c'est-à-dire faire un nanofil de cuivre à l'intérieur de la tranchée. On fait rentrer les nanoparticules de cuivre et quand on fait une coupe, on voit que le cuivre va jusqu'au fond de la tranchée. De la même façon, on peut disperser des nanoparticules ici d'oxyde d'étain sur des supports silicium pour faire des capteurs de gaz. Et ces capteurs de gaz sont très résistants et très stables au cours du temps. Et ça, ça a été industrialisé. Ça contrôle l'entrée d'air des BMW. Dès qu'il y a de la pollution, qu'on suit un camion, paf, les volets se ferment. Et c'est ces capteurs de gaz-là qui ont été utilisés. Donc, à ce point, j'espère que je vous ai convaincu que on peut utiliser la chimie en solution, la chimie organométallique, et qu'on peut avoir un intérêt d'utiliser ce type de chimie pour faire des matériaux qui auront des propriétés catalytiques, électriques ou photoluminescentes. Alors regardons les problèmes de croissance. Si je reprends mon petit schéma de tout à l'heure, donc j'ai mon précurseur, je décompose, il y a l'étape de nucléation, et puis cette étape de nucléation va essayer de faire croître les particules. D'abord, il y a la tendance naturelle qui est tout se termine, le matériau va grossir, tout va précipiter, et ça sera fini. Mais si on arrive à empêcher ça, en mettant des inhibiteurs de précipitation qui sont par exemple soit des polymères, soit des ligands, ces molécules organiques qui, on a vu, contrôlent et stabilisent les particules, on va pouvoir essayer de faire croître les particules. Donc croître soit en contrôlant cinétiquement la croissance, soit en contrôlant thermodynamiquement la croissance. Alors commençons par la cinétique. Je reprends le cuboctaèdre de platine et je reprends les faces exposées. Donc, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais il y a des faces qui sont non compactes, on les voit mieux là, donc 8 voisins et puis un aspect carré, et des faces qui sont compactes et qui ont une chimie différente. Comment est-ce qu'on peut jouer pour faire croître une face aux dépens d'une autre? Donc, d'abord, on peut prendre un précurseur. Je vous ferai grâce des noms des précurseurs, mais simplement, ça c'est un précurseur qui se décompose très facilement. Le platine bis dibenzylidène acétone, c'est dit, mais voilà. Et quand on le décompose, il se décompose très facilement sous hydrogène. Et on peut mettre des ligands qui contiennent du soufre pour s'accrocher aux platines. La liaison platine-soufre est très forte. Et quand on fait ça, on va avoir des toutes petites particules bien définies. Mais avec une liaison très forte entre le soufre et le platine, ces particules sont stables pour des années. On peut les précipiter, les remettre en solution. C'est comme du sucre ou du sel. C'est stable. Par contre, si au lieu d'une fonction avec un S, on met une fonction avec un N, une amine, l'amine va avoir une énergie de liaison beaucoup moins forte avec le platine. C'est-à-dire que quand elle va se coordonner, on va commencer par voir des petites particules, puis ça va se transformer. Ce qu'on voit ici, c'est la résolution atomique. Donc les petites grilles, là, les petits points noirs, c'est des atomes. Ce qu'on va voir, c'est que les particules vont se coller entre elles et vont former des espèces de planenouilles. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, on voit la coalescence. Ce qui se passe, c'est qu'on a des nanoparticules qui sont entourées de ligands, et ces ligands ne tiennent pas à la surface. Il y a une dynamique des ligands qui vont s'échanger. Les ligands qui sont dans la solution et les ligands qui sont à la surface vont s'échanger. On va donc libérer des sites de coordination de la surface. Et comme ces ligands sont des ligands qui sont aussi des tensioactifs, on va permettre la coalescence des particules selon une direction et aller vers des fils. Alors, ce n'est pas des fils qui sont parfaits, c'est plutôt des nouilles. Et on va avoir comme ça une dynamique qu'on va pouvoir mesurer par résonance magnétique nucléaire en solution et où on peut voir les échanges qui se produisent. Donc on avait un ligand qui se décomposait facilement. On va prendre un précurseur, pardon. Maintenant, on va changer de précurseur. C'est un autre précurseur, c'est le diméthylcyclooctadiène platine. Il est plus difficile à décomposer. S'il est plus difficile à décomposer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les conditions à basse température et sous faible pression d'hydrogène, on n'aura pas de nucléi. Donc on va chauffer pour avoir des nucléi, mais quand on aura des nucléi, on va avoir en même temps, on va avoir peu de nucléi et en même temps beaucoup de complexes qui vont pouvoir se décomposer à la surface des nucléi formés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on aura très peu de particules de grande taille. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'au bout de quelques temps, on a tout décomposé, mais on a très peu de nucléi, donc ça c'est 50 nanomètres. Tout à l'heure, on était plutôt du côté de 2-3 nanomètres. On a donc peu de particules de très grosse taille, et ils se forment avec ce ligand qui est toujours le même, l'amine, ce qui veut bien se former thermodynamiquement à cette température. Ce qui est le plus stable pour le platine, c'est le fameux cube octaèdre que je vous ai montré tout à l'heure. Très bien. Si on ne change rien, sauf ça. C'est-à-dire là, on avait un équivalent d'amine par platine. Si au lieu d'un équivalent d'amine, on met 0,5 équivalent de diamine, on a toujours autant d'azote, le rapport azote sur platine est inchangé. Tout ce qui change, c'est la structure de la molécule. Et là, tout change. Absolument tout change, c'est-à-dire ce qu'on voit, c'est la croissance de flèches de platine qui n'expose plus que la face 1-1-1, la face compacte. On a voulu voir l'influence du ligand, donc on a commencé par faire croître les cubes octaèdres, et dans la solution où il y a les cubes octaèdres, on rajoute la diamine. Et ce qu'on voit, c'est de nouveau croissance des faces 1-1-1. C'est donc bien ce ligand diamine qui force la formation de ces faces. Et alors, à quoi c'est dû? Ce qu'on peut proposer, c'est que la diamine va se coordonner plus facilement sur les faces non compactes, sur les faces qui apparaissaient carrées, va les bloquer et va donc permettre la croissance des faces compactes. Alors c'est très joli, mais ça nécessite une interprétation. Et toute interprétation, sans rien qui le montre, qui le démontre complètement, génère toujours du scepticisme. Scepticisme qu'on peut voir dans les regards des gens qui sont dans l'assemblée. Donc même si le modèle paraît correct, on ne sait pas très bien quand même ce qui se passe exactement. On sait que cette diamine favorise cette croissance, mais on voudrait comprendre si c'est un effet thermodynamique, si c'est un effet cinétique, parce que c'est un blocage temporaire des faces et que pendant ce temps-là, il y a la croissance. Donc on s'est tourné vers un troisième précurseur. Alors celui-là, il est encore beaucoup plus difficile à décomposer. C'est simplement l'acide hexachloroplatinique, c'est un sel de platine. Ça se décompose pas très facilement. Ça se décompose pas facilement. Et donc, on va prendre des conditions plus drastiques, 150 degrés sous hydrogène, une amine toujours, et par chance, bien que l'oléylamine soit peu recommandable parce que c'est toujours quelque chose qui est un peu sale et que je recommande pas de prendre, mais heureusement, il y a des gens qui ne suivent pas les conseils dans le laboratoire. Donc, l'oléylamine a, au milieu de sa chaîne carbonée, une double liaison. Quand on a une double liaison de l'hydrogène et du platine, il va se passer un phénomène d'hydrogénation à un moment. Et alors, ce qu'on trouve, c'est qu'en fonction de la concentration du sel de platine, on a soit de magnifiques étoiles à 3 branches ou à 5 branches, soit des structures dendritiques. Alors, on va voir ça de plus près. Premièrement, c'est des petits trucs, des espèces de cubes, mais à l'intérieur, on voit que ce n'est pas des vrais cubes fermés, c'est des cubes dendritiques, on va les voir mieux. Et puis, ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire, c'est une croissance continue. Il n'y a pas de phénomène de régulation. C'est une croissance cinétique jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de platine dans la solution. Si on regarde un cristal, c'est un monocristal. Un monocristal, on voit ça par la diffraction des électrons. C'est un monocristal, donc tout est orienté. Et les faces exposées sont des faces non compactes. Quand on regarde les étoiles de platine, là, on est à faible concentration, donc on a des jolis trucs. Et quand on regarde de près, on n'a que des faces compactes 1-1-1 qui sont exposées. Donc, on a des formes totalement différentes et en plus, des faces exposées qui sont totalement différentes. On peut suivre. Ah, j'ai fait sauter la diapo. Ouais, je suis passé vite sur celle-là. On peut suivre ici la croissance. Dès les premières étapes, on a des bifurcations et on arrive à des objets qui sont absolument, je ne devrais pas le dire, mais fascinants. Et ici, partout où on regarde, on n'a que des faces à un qui sont exposées. Ces faces 1-1 sont les plus stables, on s'attend à ce qu'elles soient exposées, mais la question c'est pourquoi dans un cas et pas dans l'autre. Alors on a une amorce de réponse en comparant ces deux courbes. Là c'est une courbe au cours du temps, et au cours du temps on va chauffer les nanoparticules. Ici c'est la température. Donc en gris c'est la température, en rouge c'est la consommation d'hydrogène. On va mettre en chauffe les nanoparticules au cours du temps, et quand on a beaucoup de platine, à un moment donné, il va y avoir un point critique qui va faire démarrer la consommation d'hydrogène. Qu'est-ce que c'est que cette consommation? C'est l'hydrogénation de la double liaison de l'oléylamine qui va produire de la chaleur. cette chaleur va faire une croissance de la même façon que on a, par exemple, sur une goutte d'eau, sur un pare-brise qui est froid, on a une croissance d'un cristal de glace qui est une croissance dendritique. Ici, c'est une croissance rapide qui va être dendritique, alors que là, dans le cas où on a peu d'atomes de platine, on ne va jamais atteindre la quantité de chaleur suffisante pour arriver à cette croissance, et on va donc remplir atome par atome en laissant la face la plus stable qui va être exposée. Donc ça, c'est un modèle de croissance cinétique, c'est-à-dire que ce n'est pas la thermodynamique qui contrôle, c'est la cinétique de la réaction. Et puis on peut jouer. Si on joue, on fait des trucs. Enfin, on peut s'amuser beaucoup avec ces machins. Maintenant, essayons de voir la croissance thermodynamique. Qu'est-ce qu'on entend par là? On prend un précurseur de fer, donc toujours une molécule. C'est toujours une molécule qui est difficile à faire, mais facile à décomposer. Et ça, c'est assez frustrant, c'est la partie frustrante du domaine. Et on la décompose sous hydrogène. Si on la décompose toute seule, on a des toutes petites particules de fer. Et la surface n'a pas d'oxyde. Si on veut regarder la croissance et des particules, ce qu'on veut, c'est avoir des surfaces propres. Et donc, on mesure qu'on a en fait des liaisons F et H en surface. Maintenant, si on chauffe ça en présence d'un mélange, on a l'acide oléique, c'est ce qui correspondait à l'oléylamine tout à l'heure, et puis l'hexadécylamine qu'on a déjà vu, c'est une amine avec une chaîne en C16. On mélange tout ça, et ce qu'on obtient, c'est un mésocristal. C'est donc un cristal, un supercristal, qui, quand on regarde de près, contient des petits cubes qu'on peut redissoudre et mettre sous forme de monocouche sur un wafer de silicium. On a donc un cube de cubes, et tous les cubes ont la même taille, environ 7 nanomètres là. Ça nous a pris du temps pour essayer de comprendre la croissance et de comprendre le fait qu'on obtenait d'un seul coup cette superstructure. Donc ce qu'on a fait, on a fait un système modèle qui contient l'acide palmitique. On a supprimé les doubles liaisons parce que ça fait des choses bien, mais ça crée aussi des problèmes. Et puis l'hexadécylamine. Et on a regardé ce système avec cette stoichiométrie. Quand on met un acide carboxylique près d'un amidure, pour les chimistes organométalliciens de la salle, s'il y en a, immédiatement, on fait cette molécule qui est le carboxylate de fer. Dans ce cas-là, on est ramené à un système à deux précurseurs. Un qui se décompose rapidement, l'amidure de fer, et un qui est très difficile à décomposer. Celui-là ne donnera pas lieu à une nucléation. Il ne pourra se décomposer que sur des particules de fer préformées. Quand on regarde au début, ce qu'on voit, c'est qu'on a formation de superstructures. Et puis, on suit la réaction. On a d'abord décomposition de l'amidure de fer et on retrouve les petites particules qu'on a vues tout à l'heure. Puis, petit à petit, ces particules, en présence d'amines, coalescent. Et petit à petit, toujours, le carboxylate de fer va commencer à se décomposer et venir se décomposer dessus. On va donc avoir croissance de choses qui sont des lignes droites parce que le carboxylate de fer va se lier très fortement sur les faces 1,0,0, les faces non compactes du fer, et donc les faces qui vont avoir tendance à faire des cubes. Et puis, l'acide carboxylique est corrosif, ce qui fait qu'au début, on a des gros cubes, des petits cubes, des moyens cubes, on a des parallélépipèdes rectangles, et petit à petit, au cours du temps, la corrosion va faire son effet, et les gros vont devenir petits, les petits vont devenir gros, et à la fin, tous les cubes auront la même taille. Ça, c'est un effet thermodynamique. C'est-à-dire qu'au cours du temps, on va aller vers des objets qui vont devenir semblables parce que, vu la concentration d'acide et vu la chimie de surface, qui est que l'acide préfère les faces non compactes, on va arriver à avoir des cubes qui ont tous la même taille et tous la même forme. Oui, tous les cubes ont la même forme en général, d'ailleurs. Donc, voilà, et on obtient ces machins-là. Et en fonction des concentrations des uns et des autres, on obtient soit des sphères, soit des cubes, et de taille variée. Un des moyens, le fer est magnétique, et un des moyens de contrôler que l'état de surface est bon, c'est de mesurer le magnétisme du fer. Et dans tous les cas, on obtient des valeurs qui sont proches des valeurs du métal massif, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'oxydation significative des nanoparticules. On a vu qu'on utilisait des amines et des acides en C16. Si on utilise en C12, on a raccourci de 4 atomes la longueur de chaîne. On n'a plus assez de force pour séparer les nanoparticules. Et donc là, la coalescence va être rapide. Elle va être rapide et elle va faire des cubes qui sont creux. Le bleu, je n'ai pas fait le... C'est de la microtomie, ça. C'est-à-dire que c'est là une reconstruction d'image, ce qu'a montré Clément tout à l'heure. On a fait des coupes à l'intérieur du matériau. Et à l'intérieur du matériau, de ces cubes, on voit ça, c'est du gras. C'est-à-dire c'est le mélange d'acide et d'amine qui est prisonnier à l'intérieur du fer. Alors les cubes ne sont pas très beaux, ils ne sont pas monodisperses, mais ils ont des trous à l'intérieur. Et ça, c'est intéressant. Tout petit peu de physique, les petites particules sont monodomaines. Ça veut dire que tous les spins des atomes individuels sont alignés. Les grosses particules ou les aimants qu'on met sur les frigos sont multidomaines. Ça veut dire qu'il y a des domaines où tous les spins sont alignés, et puis, à l'échelle macroscopique, on va avoir refermement des lignes de champ pour minimiser l'énergie magnétique. Tous les aimants sont comme ça, la ligne de fer, les expériences de première, tout ça, c'est pareil. On referme les lignes de champ. C'est monodomaine, mais il y a deux positions possibles. La position où tous les spins sont up, la position où tous les spins sont down. Pour passer de l'un à l'autre, il y a une barrière d'énergie qui dépend du matériau, de sa constante d'anisotropie, et du volume des particules. C'est-à-dire plus les particules sont grosses, plus cette barrière va être grande. Ce qui fait que quand, à une certaine taille, on va fixer le magnétisme et ça deviendra des aimants permanents sur lesquels on pourra inscrire de l'information. Entre les deux, entre le monodomaine et le multidomaine, il y a un état vortex où le champ magnétique se referme sur lui-même mais n'est pas confiné dans certaines zones. C'est donc un état où le magnétisme est comme circulaire. C'était prévu pour des atomes de fer des cubes de fer entre 20 et 40 nanomètres. Et ce qu'on voit ici, c'est un cube qui fait environ une trentaine de nanomètres, 35. En fausse couleur, on a l'intensité du champ magnétique. Et ici, en fausse couleur, on a la direction du champ magnétique. Et ça, c'est une simulation micromagnétique. On a donc formation d'un vortex sur un cube. L'avantage par rapport aux physiciens, c'est qu'on peut jouer au cube. C'est-à-dire qu'on peut les déplacer, ils ne sont pas fixés sur la surface. Donc si on prend deux cubes et qu'on les amène l'un près de l'autre, ce qu'on voit, c'est qu'on a un couplage ferromagnétique. Ça, en fausse couleur, c'est la direction du champ magnétique, il n'y a plus de changement. Et là, en fausse couleur, l'intensité du champ magnétique, il n'y a plus de changement non plus. Donc on a supprimé le vortex en couplant les deux cubes et en transformant ça en ferromagnétisme. Et là, quand on a quatre, eh bien, on referme les lignes de champ à nouveau. C'est intéressant, mais on perd le vortex. Le vortex, c'est un moyen d'avoir de l'information magnétique, d'avoir deux informations magnétiques sur la même particule. Première information magnétique, le moment magnétique peut être up ou down, enfin peut être en haut ou en bas. Deuxième information magnétique, il peut tourner dans cette direction ou tourner dans l'autre direction. Si on met des trous à l'intérieur et qu'on rapproche, et là on a des grosses particules qui font environ une trentaine de nanomètres, si on met des trous, on ne couple plus les champs magnétiques et on stabilise les vortex. On a donc un moyen, en jouant sur la chimie, de multiplier l'information qu'on peut avoir sur le magnétisme. On peut faire des assemblées de ces nanoparticules et regarder le courant qui saute de particule à particule, et on va voir qu'en fonction d'un champ magnétique extérieur, le courant va varier, et donc on peut avoir... Ça, c'est de la magnétorésistance tunnel, puisque c'est par effet tunnel que les électrons sautent d'un cube à l'autre. On peut avoir de la magnétorésistance tunnel à température ambiante. Alors, je reviens au spin-up et spin-down et à la barrière d'énergie. Quand on a des petites particules, 5 nanomètres, qui sont super paramagnétiques, c'est-à-dire que par rapport à la température extérieure, cette barrière d'énergie est faible. On va avoir un chauffage qui va être très faible. C'est-à-dire que le retournement qu'on va induire par une bobine électromagnétique, on va faire tourner le moment magnétique et on ne va pas récupérer beaucoup de chaleur. Il n'y aura pas de cycle d'hystérésis si on est super paramagnétique. Donc. Par contre, si on prend des grosses particules, on va avoir une puissance de chauffe très élevée. C'est mesuré par quelque chose qui s'appelle le SAR, Specific Absorption Rate, en unité de je ne sais plus quoi, en watts par gramme. Non, c'est important les unités. Et là, ce qu'on peut voir, ce sont des nanoparticules de fer qui sont dans du mésityléne. Le mésityléne bout à 150 degrés et c'est en temps réel. Ah. Alors là, ce n'est pas très concluant, mon affaire. On va essayer une nouvelle fois. Voilà. Voilà. Donc, dès que le champ magnétique a été mis, le mésityléne se met à bouillir. Le chauffage intervient en moins d'une milliseconde. On a mesuré les dynamiques. On a donc quelque chose qui est très, très bien pour l'hyperthermie. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'hyperthermie. Donc, c'est utiliser le retournement du moment magnétique des nanoparticules en utilisant le fait qu'il y a une barrière entre les deux. On récupère la chaleur de la barrière et on va pouvoir chauffer le milieu. Pour traiter des tumeurs, ça c'est parfait, mais le fer n'est pas toxique. On va pouvoir traiter des tumeurs, mais vu qu'on va faire tout bouillir autour, je ne sais pas, on ne va pas traiter le malade, je crois. Donc c'est pas encore tout à fait ça. Alors, on va, dans la dernière partie, on va regarder des nano-objets complexes. Donc, je vous ai présenté la synthèse de nanoparticules de fer. Elles sont très bien, elles ont des belles propriétés physiques, elles ont des propriétés catalytiques aussi, dont je n'ai pas parlé, mais elles sont actives, par exemple, en Fischer-Tropsch. Et la question, c'est, elles sont sensibles à l'air, c'est-à-dire que si on les met à l'air, elles sont immédiatement dégradées en oxyde, et même... certaines d'entre elles prennent feu. Mais bon. Donc, est-ce qu'on peut éviter ça? Et une idée, c'est de transformer la surface en carbure de fer. Alors, quelles sont les méthodes actuelles 2011 pour faire des nanoparticules de carbure? Bon, il y a des méthodes d'ablation laser, il y a des méthodes où on chauffe à haute température. Il n'y a pas de méthode de chimie douce pour faire des nanoparticules de fer, autre que quand on utilise des nanoparticules de fer dans les synthèses Fischer-Tropsch, Je vous rappelle que les synthèses Fischer-Tropsch, qui ont été utilisées à la fois par les Allemands pendant la guerre et par les Sud-Africains pendant la période de blocus due à l'apartheid, c'est l'hydrogénation du monoxyde de carbone pour faire des carburants, pour faire des essences, des hydrocarbures. Ça fait tous les hydrocarbures. Donc l'idée, c'était la suivante. Bon, ça ne marchait pas avec nos particules, on en a fait d'autres, des particules de fer monodisperses à partir d'amine et de chlorure d'ammonium. Celles-là sont assez jolies. Et on rajoute du fer carbonyl pour mimer le processus de Fischer-Tropsch dans lequel on va faire d'une part du carbone qui rentre dans le fer et de l'eau qui est éliminée. Donc si on a une température qui est insuffisante, on décompose le fer carbonyl, mais on ne fait que du fer. On fait grossir d'environ 8 nanomètres à 10 nanomètres. Quand on travaille à 120 degrés, on a formation d'une structure cœur-coquille où on a du fer à l'intérieur et du carbure de fer à l'extérieur. Et enfin, à 150 degrés, on a tout sous forme de carbure. Alors on peut le voir de plus près. L'hydrogène est absolument essentiel dans la mesure où c'est l'hydrogène qui permet d'enlever l'oxygène du CO, de faire de l'eau, et ce qui permet au carbone de rentrer. Donc, quand on est sous hydrogène, le spectre Mössbauer nous dit que c'est bien du carbure de fer. Quand on n'est pas sous hydrogène, ce qu'on fait, c'est de la croissance, mais on garde les particules de fer zéro. Alors là, voilà une particule de carbure de fer qui est entourée d'un carbure de fer riche en carbone. Et pratiquement, là, ce qu'on voit, c'est du graphène, des feuilles de graphène autour. Et là, c'est le fer zéro qui est entouré de carbure de fer. Tout ça, c'est des analyses, Mössbauer, rayons X, etc., mais je passe. On peut contrôler la taille, ça marche à toutes les tailles. Et le point intéressant, c'est le suivant. Quand on prend des particules de fer et qu'on les met à l'air, on voit que le magnétisme baisse parce qu'on oxyde la couche de fer qui est à l'extérieur. Quand on laisse à l'air longtemps, je crois que là c'est marqué, c'est illisible, mais c'est 11 jours, on voit qu'au bout d'11 jours, c'est stabilisé et qu'on n'oxyde plus. On a oxydé un petit peu en surface, mais que l'oxydation ne pénètre pas. On a donc des particules qui deviennent stables à l'air. Alors, est-ce qu'on peut augmenter la complexité, aller vers des bimétalliques? On avait joué à ça déjà en utilisant un précurseur de cobalt qui se décompose très facilement, et puis le fer carbonyl. Et ce qu'on avait obtenu, ce sont des mésocristaux encore, donc des cristaux de cristaux qui font des tailles millimétriques et dans lesquels on a des particules de fer cobalt qui sont dans un super réseau cubique à face centrée. Donc ça, c'était très bien. Et quand on a regardé à l'intérieur, ce qu'on a vu, c'est que la structure à l'intérieur du fer cobalt, la structure, c'est cubique centrée. On n'avait pas du tout une structure cubique centrée, mais une structure en oignon. Et quand on chauffe, on transforme cette structure en structure cubique centrée avec une pellicule de carbone autour. On avait donc inclus du carbone déjà dans notre fer cobalt. Mais on peut reprendre la même technique qu'on a prise sur le fer. Et là, je vous montre simplement le cas où on va utiliser ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire le carbure de fer, pour mettre par-dessus du cobalt. Donc on décompose le carbonyle de cobalt par-dessus. Et on voit là, par microscopie électronique en transmission, filtré en énergie pour voir où se trouvent le fer et le cobalt. Là, on a les trois particules qu'on va étudier et on voit que ces particules, elles contiennent du fer et elles contiennent du cobalt. On a donc bien déposé le cobalt à la surface du carbure de fer. Dernier exemple, sur la croissance thermodynamique, Je vous ai montré la croissance thermodynamique de cubes de cobalt. On peut faire la même chose avec deux cubes de fer, pardon. On peut faire la même chose avec des bâtonnets de cobalt. La structure cristalline du cobalt est hexagonale compacte, c'est-à-dire qu'il y a un axe de croissance privilégié, et alors que la structure du fer est cubique. Donc, quand on va aller vers une croissance thermodynamique, on va observer au départ la décomposition, la formation de petits germes qui, petit à petit, vont se transformer en bâtonnets monodisperses en diamètre et en longueur. Et on peut continuer à jouer, ça sera pratiquement ma dernière diapo. Je l'ai beaucoup... On a joué à mettre de l'or sur les bâtonnets de cobalt. Pourquoi ? Parce que ces bâtonnets de cobalt sont ferromagnétiques à température ambiante et avec un diamètre de 7 nanomètres, ça fait des... Si on peut les aligner, les adresser pour inscrire de l'information magnétique, on est à plusieurs terabits par pouce carré, qui est apparemment l'unité qui est utilisée. Donc, c'est très bien, mais il faut pouvoir les adresser. Et pour les adresser, ce qu'on a voulu faire, c'est mettre un bout d'or au bout et les coller avec des tioles sur des surfaces. Mais pour mettre un bout d'or au bout d'un bâtonnet de cobalt, c'est moins facile que ça paraît. Donc, on a utilisé différents précurseurs, on a eu des réactions électrochimiques, on a dissous le cobalt, etc., etc. Et finalement, avec ce précurseur, qui va se décomposer sans initier une réaction électrochimique, puisqu'on a une phosphine qui va donner des électrons au complexe d'or et va le rendre très peu électrophile, on va décomposer, mais on va décomposer un peu partout. Si on met un excès de ligand, comme les bâtonnets de cobalt ont sur le côté des faces non compactes et au sommet une face compacte, les ligands vont se mettre préférentiellement le long de l'axe de croissance. On va donc bloquer tous les côtés et on va mettre l'or spécifiquement au bout des bâtonnets de cobalt, comme on peut le voir là par les images de haute résolution. Et puis on peut continuer à jouer sur les étapes de nucléation-croissance et on peut s'amuser. Là, ça a été fait avec l'espoir que strictement ça ne serve à rien. Et je pense que pour une fois on a atteint notre but, mais on arrive à faire des nœuds neuronaux, tout ça c'est des fils de cobalt monodisperses, et on peut jouer avec tout ça, c'est très amusant, on fait des trucs. Donc, en conclusion, moi, je vais simplement laisser cette conclusion. On arrive avec la chimie en solution à jouer avec les formes, je ne dirais pas en comprenant exactement tout ce qu'on fait, mais en ayant une approche où on arrive à commencer à comprendre ce qu'on est en train de faire. Et donc, on est capable de faire de la croissance cinétique. La croissance cinétique, c'est toujours quelque chose où on ne contrôle pas vraiment. C'est-à-dire, il va se faire ce qui veut bien se faire, puisqu'on n'a aucun moyen de réparer ce qui va se faire. Donc, par cette croissance-là, on va avoir des objets qui peuvent être fantastiques, comme les particules de platine qui sont dendritiques et qui sont des monocristaux. Mais disons que ça n'arrive pas très souvent. De notre côté, on peut essayer de comprendre toute la chimie en solution et d'avoir une approche thermodynamique où, connaissant la structure, connaissant la chimie de surface, etc., on va pouvoir essayer de prévoir a posteriori, souvent, les formes qu'on va obtenir. Et c'est le cas pour des formes relativement simples comme les cubes et les bâtonnets de cobalt. Ces objets, on va pouvoir les complexifier. On peut faire des choses qui sont cœur-coquille, on peut faire des choses où on va faire des jonctions. J'en ai donné juste un exemple, la jonction cobalt-or, mais on fait aussi sur des oxydes, on fait aussi sur des sulfures, etc., etc. On va donc arriver à avoir des objets complexes et fonctionnels, parce que ces objets ont des propriétés physiques intéressantes, que ce soit en magnétisme ou en luminescence. On va pouvoir faire aussi du transport pour la nanoélectronique et de la catalyse. Et ce qui nous intéresse le plus à l'heure actuelle, c'est de coupler propriétés physiques et propriétés chimiques. Je vais terminer en remerciant un certain nombre de collaborateurs, en particulier Karine Philippot sur la partie chimie organométallique. Je n'ai pas beaucoup parlé de tout ce qui est l'environnement et l'analyse de ce qui se passe sur les surfaces, où il faut beaucoup de RMN. Il en faut encore beaucoup plus. S'il y avait de l'ARMN à Orléans, par exemple, ça serait bien, mais je dis ça comme ça. Ensuite, partie semi-conducteur, c'est Fabien Delpech, Céline Néral, Wilfried Solojo sur le phosphure de cadmium. Ensuite, sur le fer, c'est essentiellement le travail de Sébastien Lachaise, Lise-Marie Lacroix, Frédéric Dumestre au départ, Céline Desvaux sur le fer cobalt et Anne Cameffre sur le carbure de fer, le cobalt sur le carbure de fer, etc., etc. Et puis la croissance de cobalt, Caterina Soulantica et Jérôme Ménadier sur l'or, des collaborations en particulier avec des physiciens pour la microscopie électronique et l'holographie, Étienne Snouk au CMS à Toulouse, au LPCNO avec Marc Crespo et son équipe, et puis de l'argent. Et je vous remercie pour votre attention.